Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui cherche Kiki.
Kiki.
Ouh, Kiki, Kiki, Kiki.
Hey, vous avez pas joué le bouchin, s'il vous plaît?
Kiki, Kiki, Kiki.
Allez. Ouh. Ouh. Miaou. Ouh.
Franchement, la pédale Wawa sur l'intro, c'est nickel.
Ouais, bonjour les amis, je suis One A Pied, je vous accueille pour un podcast sur la bande dessinée. Et je suis en compagnie de Tizak.
Wouhou !
Notre
chien.
Notre Bill à nous. Oui, oui, il fallait trouver un nom de chien célèbre. Oui, Bill.
J'ai compris bide.
Oui, toi aussi, mais là, c'est bien.
Notre bide à nous.
Voilà.
Oui.
Bonjour, Tizak.
Et voilà.
Et avec Thio, notre rentemplant.
Didier, on ne sent pas le cul des femmes, s'il te plaît.
Vous êtes avec nous pour au moins une heure d'émission sur laquelle nous allons vous parler de...
Tizak, c'est qui, lui? Parce que, donc, toi, t'es Bill, je suis rentemplant.
Ah, Snoopy.
Ouais.
Ah non, c'est trop gentil, ça, Snoopy.
Il
faut un truc... Non. Il faut lui trouver un truc bien... d'ici la fin de l'émission,
ouais,
on va trouver. Comment il s'appelait, le chien, dans Chérif, fais-moi peur?
Ah ouais, il est bon lui, le chien de Horoscope et Coltrane.
Ouais.
Coltrane. Ah ouais, il est bon lui. Ou le chien de Columbo.
Il a un nom?
Bah non, mais c'est les deux mêmes.
C'est le chien. Le chien. Donc, nous allons vous parler de Sauvage, de pornographique, de Elle, de James Joyce, du fanzine Anachronique et de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires Century 2009.
Tome 3.
Notre Splash Page sera consacré au club du suicide d'Eddie Vaccaro. Nous enseignerons avec une carte blanche mystère. En online, je vous parlerai de Borb. Un petit hors-sujet mystère.
mystère.
Et tout ça, c'est pas mal. Ben voilà, je crois que...
Ça commence maintenant.
Ouais. Le sauvage.
Grois, Mathieu, c'est toi le sauvage. Ouh, sauvage.
Le sauvage, alors c'est un livre bleu. Ça doit faire approximativement
2000 ans.
2 ans qu'il est sur la liste des lectures du One Eye Club. Et que je dis à Happy, mais quand est-ce qu'on va le chroniquer? Ouais, bientôt. Non, mais quand est-ce qu'on va le chroniquer? Bientôt. Non, mais quand est-ce que tu me le passes pour que je puisse le lire et que je puisse le chroniquer? Non, mais ça va arriver, t'inquiète pas, je vais le passer. Donc 2 ans environ, Le Sauvage, on a beaucoup d'avance, hein, de David Almond et donc de Dave McKean.
Mais c'est peut-être c'est ça en fait qui était délirant, c'est que oui, Dave McKean c'est quand même, voilà combien de faire Pierrick pour Pierrick.
Ah, pour Pierrick,
et à un moment donné, on se demandait pourquoi est-ce qu'il ne nous l'a pas imposé obligatoirement.
Le savourer, le...
Je me demande s'il n'a pas gardé sous blister pendant 2 ans, quoi.
Pour pas l'abîmer. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse au prix de 13 euros. L'histoire du Sauvage, c'est... un petit garçon qui s'appelle Blue qui à la mort de son père en fait va commencer à écrire un journal un petit peu obligé par Madame Molloy qui du coup lui demande voilà, dit oui, il faut que tu écrives pour justement pallier toute la douleur que tu as de la mort de ton père, et il va se créer un ami imaginaire, un sauvage qui vit au fond des bois et qui ne parle pas. Et au fur et à mesure qu'il va mettre de plus en plus d'écriture dans son carnet, eh bien, ce sauvage va prendre de plus en plus pied dans une réalité ou pas. Voilà.
On ne sait pas trop.
On ne sait pas trop si le rêve se met pas à la réalité.
C'est un format assez étrange parce qu'on est entre le roman et la BD. Il y a vraiment une sorte de mélange dans tout ça. Il y a un jeu sur l'écriture parce que quand le mot m'écrit, il y a des fautes.
Oui,
et des fautes volontaires. Donc pour l'auteur.
Ce sont les écrits d'un enfant.
Ah, franchement, il est bon élève. Hein.
Ah oui, non, bah non.
Oui.
Enfin, je veux dire, comparé au mien.
Ouais, mais déjà, c'est le bouquin, il a 2 ans, quoi.
Oui, ils étaient meilleurs il y a 2 ans.
C'est meilleur, vous allez.
Tous les instituts disent ça, ouais. De toute façon, ils étaient meilleurs. Franchement, plus on avance et plus ils sont nuls, quoi.
Et donc, on se retrouve avec des illustrations de Dave McKean qui font partie du roman, en fait, qui prennent totalement vie à l'intérieur. avec un aspect BD, c'est-à-dire que ces illustrations se transforment en bande dessinée au fur et à mesure quand il nous montre les actions du sauvage et reviennent jusqu'au à l'écrit du môme quand on revient un peu à la réalité et le tout commence à se mêler dans tous les sens. Moi j'ai trouvé cet album très fort parce que on en parlait déjà, hein. On est un peu dans ce fantasme de et s'il y avait cette part de moi qui peut faire ce qu'elle veut, qui se matérialisait, qu'est-ce qu'elle ferait? Et c'est super bien écrit, ça prend en trip, on sent cette tristesse, cette peine, ce deuil qu'essaye de faire le jeune, quoi, de faire Blue. Et on passe de l'écrit à l'image, mais de façon. Enfin, c'est très fluide. Je trouve qu'on arrive à passer de l'un à l'autre, tout en fluidité, tout en finesse. Parfois, en fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on passe dans un passage de BD. C'est vraiment très bien fait.
Oui, je trouve que l'exercice de style, pour le coup, était assez difficile à réaliser de manière fluide, pour reprendre ton terme, sans qu'on se coupe de l'immersion. Et c'est vraiment extrêmement bien réalisé. C'est vraiment absolument génialissime. On plonge au cœur des problématiques de ce petit enfant, donc on pourrait se dire que on est adulte, ça va, c'est fait quoi. Le vilain petit qui vient enquiquiner le petit gringalet, une petite fille qui vient intervenir là-dedans et qui commence à créer les premiers émois amoureux. On pourrait dire que c'est d'une part une redite et d'autre part ça nous concernerait plus forcément. Et pourtant, on se plonge, je trouve, totalement dans la problématique de ce petit enfant. On est vraiment dans sa tête, dans ce qui se passe. Et comme tu le disais, on se met 3 secondes à sa place. Si je pouvais faire tout ce qui me passe par la tête, qu'est-ce que j'écrirais dans ce bouquin? Qu'est-ce que je mettrais dans ce carnet? En sachant que ça peut se réaliser par l'intermédiaire d'une tierce personne, sans que nous, on puisse être inquiétés d'une quelconque façon.
Surtout, c'est que ça laisse libre cours à toutes les pulsions animales que tu pourrais avoir d'injustice quand tu es enfant, quoi.
C'est ça.
La grosse brute de ton école te dire que tu peux te venger de tout ce qu'elle t'a fait en une seule fois.
Et ça va pas jusque là parce que je trouve qu'il y a une finesse, c'est-à-dire que le sauvage se jette pas tout de suite sur les gens qu'il aime pas pour que le jeune aime pas pour éclater les gueules. Il est là, il les observe, c'est une figure inquiétante au début, il commence à agir de plus on avance dans l'histoire, mais c'est vraiment la figure inquiétante qui observe, qui rentre chez toi la nuit et qui regarde ce que tu fais, côté un peu pesant, ça crée une vraie ambiance un peu d'horreur, quoi, qui est bien réussi.
Le côté un peu animal, quoi, du coup, l'animal qui découvre, tu vois, il te sent,
il te rôde, c'est ça.
C'est assez tactile, j'ai trouvé, comme approche.
Complètement. Il y a une proximité, je ne vais pas dire un huis clos, mais une proximité quand même qui se crée, parce que les lieux sont relativement bien définis, il n'y a pas 53 endroits, mais... même dans la forêt qui pourrait être un espace immense, on a un sentiment d'oppression dans cette forêt. Quand de nuit il va se balader dans le petit village, on a ce sentiment d'oppression aussi quand il est à l'intérieur des chambres, de la maison, etc. Pareil, vraiment il y a un gros travail sur l'ambiance, c'est extrêmement bien rendu.
Un excellent travail de Dave McKean, quoi.
Oui, il a un style, là, pour le coup, qui est très brut. Alors, Dave McKean, c'est un gars qui est capable d'utiliser des tonnes de techniques graphiques différentes. Là, il est vraiment sur du dessin, un travail sur la couleur assez monochrome, dans les verts, les bleus.
Souvent, parce que, du coup, le sauvage, on le voit la nuit.
Oui, et puis c'est brut, tu vois, tu sens cette sorte de puissance. Il dessine un corps de môme, pour le sauvage, mais tu sens qu'il y a une sorte de rage, de nervosité.
Une tension. Moi, ça me fait penser, sur certaines images, ça me faisait penser à Birdie, en fait.
Ouais.
Je sais pas, ce côté un petit peu, très fin, qui est fin, quand même, parce que c'est un enfant, mais...
Il manquerait, dans Birdie, le côté carnassier que possède complètement, je trouve, le sauvage.
Ouais.
Tu as rajouté un petit peu ça. Enfin bref, donc toujours est-il que c'est un bouquin qui pourrait être dérangeant, parce que c'est l'air de rien assez violent. Mais non, on se laisse mener de bout en bout sans nausée. C'est pesant, on est dans une grosse ambiance, mais il n'y a pas de nausée, je trouve. On va volontiers jusqu'au bout.
c'est un bouquin qui prend pas les jeunes pour des cons, en fait, aussi. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire que avec ton regard d'adulte, tu pourrais te dire, ah, je suis pas sûr que ce serait une bonne lecture pour un môme, etc. Alors que je pense que non, c'est vachement bien pour un môme.
Ouais.
Tu vois ?
Un grand môme, quand même.
Ouais, je vais te dire, parce qu'en fait, là, je prends l'exemple de mes chers...
Bambins ?
Voilà, pour rester poli. Qui donc, si je leur fais dire ça, en fait, je pense qu'ils ne prendraient pas le second degré, si tu veux. Ils resteraient sur le... Ah ouais, quand il y en a un qui m'emmerde, je lui casse la tête.
Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que je pense que c'est deux niveaux de lecture qui sont intéressants et que tu n'es pas obligé d'apprécier le second degré pour apprécier ce bouquin, je pense.
Ouais, mais je pense que le côté pédagogique que vous voulez donner, je pense... deux fois que je pense, mais je pense beaucoup. Donc, David Almond, je pense...
Tu es beaucoup.
Une cinquième fois, qui avait un côté un peu plus pédagogique que justement le jeu lui éclate la tête.
Ouais. Et puis on voit notamment.
La finalité pour lui était peut-être pas là. Quoi.
Dans le côté pédagogique, on voit justement l'évolution de ce sauvage. Là où au départ, le monde est blanc-noir, réaction primaire, petit à petit, ce personnage évolue, il est capable de nuances, il est capable d'intégrer des sentiments, il se surprend lui-même à ressentir des choses qui sont totalement nouvelles pour lui. Avoir un sentiment, c'est totalement nouveau, au-delà de la rage ou de la faim.
Quand il croise, justement, je te coupe, excuse-moi, la sœur de Blue, Jess, il y a un sentiment qui est un petit peu différent là-dedans. Le sauvage, il s'apprivoise, quoi.
C'est justement le pont qui se crée entre fiction ou réalité.
Ça fait peur, justement, parce que tu vois ce sauvage qui s'approche... Enfin, en gros, tu dis, ce jeune est en train d'écrire l'histoire d'un sauvage qui va s'approcher de sa sœur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un petit stress, quoi. Tu te dis merde, ça peut être dur.
Ouais.
Mais bon, un très bon bouquin.
Un très bon bouquin, on va jusqu'au bout très 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 volontiers. Une excellente lecture. C'est beau, c'est bon, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Jetez-vous dessus.
Bon, depuis le temps, c'est
sur Amazon.
C'est même plus en boutique.
Ça doit se tromper.
Ça n'existe même plus.
Faut aller chercher un peu au fond des bacs.
C'est qu'en occasion. Bon, voilà, 2 ans après, quoi.
Petite phrases pour les définir.
Tio,
la vengeance aux deux visages.
Si.
Lâchez la bride au ça du surmoi.
Waouh.
Ouais, faites-vous mal à la tête.
Ouais, 2010, hein, c'est ça, 3 ans.
Moi je dis horreur brute. Et voilà, on est dans le brut, mais le brut comme art brut, tu vois.
La brute avec une majuscule.
Ouais. Pornographique.
De chez Diabolo Édition, dont nous avons parlé dans l'émission précédente, donc éditeur espagnol qui ouvre ses portes au marché international et donc qui...
C'est parce que c'est tellement la crise en Espagne que du coup le mec il se dit j'ai essayé de vendre en France.
Ouais, c'est peut-être ça aussi. Donc pornographique de Nacho Casanova pour la modique somme de 14 €. Attention, c'est spécifié seulement pour adultes.
Ah oui, c'est clair.
En même temps, avec un titre comme celui-là, on aurait peut-être pu s'en douter.
Certaines personnes qui ont 9 ans peuvent considérer, ou certains parents.
Ceci est un autre problème, débat, voilà. Est un autre débat. Nous n'en parlerons pas ici, car cela ne nous regarde pas. Bref, donc Nacho Casanova, dans cet album, nous raconte en toute petite vignette le désir. Le désir qu'il a pour sa compagne, a priori, ça reste très, très autobiographique. Hein. C'est la première dédicace, c'est pour toi que je dessine toute nue. Donc on est.
Oui.
Voilà, on n'est pas tout à fait dans de l'inventivité, dans du fictionnel. Donc il décrit, il dépeint tout un tas de situations.
C'est pas sûr.
Oui.
C'est pas sûr.
Ça peut être fictionnel parce que peut-être qu'il peut embellir sa femme.
Oui, ou embellir des situations.
Ou les situations. Toujours est-il que...
là, je veux dire, là, évidemment, là, c'est soit, voilà, tu es vraiment allé sur le terrain, tu connais les choses.
Non, je ne suis pas allé sur le terrain, donc, pour le coup. Et quelque part, je dirais, malheureusement, car...
Ou heureusement pour Nacho, peut-être.
Oui,
peut-être pas envie de partager.
Pour ma compagnie, que ce soit Roman, tiens, bref.
Continuons.
Revenons à Nacho Casanova. Tout est dans le nom. Donc, qui décrit tout un tas de situations avec ça ou ses partenaires pour le coup, mais il a sa partenaire régulière, mais ils ont une vie sexuelle assez débridée. Et il nous décrit toute la sensualité, toute la sexualité qui peut s'échanger ou qui peut simplement émaner d'elle. C'est souvent cru, souvent... quand je dis cru, c'est direct, voilà. Plus que cru, direct. Mais... il se dégage une sensualité, mais à couper au couteau, c'est palpable cette sensualité, c'est extrêmement bien fait. Le dessin est très léger, les traits sont très fins.
Noir et blanc,
enfin monochrome. C'est très détaillé au niveau des anatomies, mais même au niveau de, finalement peu au niveau des expressions de visage, mais ce qui est dessiné,
je te coupe là, c'est très détaillé, mais sans pour autant arriver.
Ah oui, non, pas chirurgical, hein.
Voilà, c'est pas chirurgical. Non, mais c'est pas anatomique comme d'autres.
Voilà.
D'autres BD qu'on avait pu lire pour l'épisode 69.
C'est cela. C'est très détaillé, et c'est souvent, quand je dis détaillé, c'est qu'on est sur un point de détail. C'est-à-dire que parfois, on va être simplement sur un bout de lingerie qui peut dépasser. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on peut être sur un bout de lingerie qui dépasse d'un jean, on peut être sur un bouton de jean qui est défait, on peut être sur une boucle de ceinture qui commence à se défaire, on peut être sur une main qui commence à glisser à l'intérieur d'un pantalon. On est souvent sur un dessin de détail et qui crée une ambiance vraiment particulière. Voilà, ça transpire la sensualité, ça transpire la sexualité. On n'est jamais dans le mauvais goût, je trouve. Ouais, très très beau.
Alors, je dirais quand même, voilà, il y a des moments qui sont d'une extrême sensualité, il y a quand même des moments qui sont d'une extrême crudité. Je pense que tu peux pas non plus dire qu'il y a que de la légèreté dans tout le bouquin.
Non, c'est pas du tout léger. C'est.
Enfin, non, de la légèreté dans le sens où.
C'est direct.
Il y a des moments qui sont, je trouve, très sensuel, voilà. Mais il y en a d'autres qui sont dans du cache-pistache, quoi. Il est pas.
Ouais, mais le cache-pistache, il est pas là pour choquer. Il est là parce que on. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est dans leur fonctionnement de couple que d'utiliser ce langage, ce vocabulaire, pour exciter l'autre et transmettre son excitation à l'autre. C'est pas fait pour choquer. Moi, j'ai trouvé qu'on était dans l'intimité de leur relation, on n'était pas dans l'idée de bousculer le lecteur, de choquer le lecteur, comme non, on a pu le croiser ailleurs.
C'est pas dans l'idée de choquer, mais en tout cas, ça reste un peu du. Enfin, ouais, c'est pas qu'un peu, c'est du voyeurisme, on va dire, où tu rentres dans leur intimité, et il y a des moments voilà, qui sont d'une extrême sensualité, et des moments qui sont beaucoup plus crus. C'est pour ça que je pense soit que c'est pas. On peut pas dire non plus que c'est tout dans une sensualité un petit peu ronronnante, cosy.
Non, c'est pas cosy, c'est pas arrondi. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était direct. Par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le terme de voyeurisme. On parlera juste après de Elle, de Boilé. On a déjà eu une interview de Boilé. On a déjà vaguement défloré le sujet. On va dire ça comme ça. Merci. Je trouve pas justement qu'il y ait ce côté voyeuriste que l'on a dans le travail de Boilé. Pour moi, j'ai pas ressenti en tout cas cette chose-là dans Pornographique.
Pour moi, c'est du voyeurisme dans le sens où moi j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver face à un petit film. C'est vraiment tu regardes une scène de l'extérieur.
Ben non, ben écoute, moi je me suis situé du point de vue de Nacho en train de croquer sa compagne et d'être dans ce moment d'intimité en accompagnateur et pas en voyeur.
Mais pas tout, oui, mais le problème c'est que c'est pas toutes les scènes qui sont comme ça. Mais je pense pas que tu. Enfin, la scène par exemple avec la serveuse, tu peux pas me dire que tu étais dans Nacho à ce moment-là, quoi. Tu étais voyeur, tu étais extérieur à la scène, tu l'observes et c'est du voyeurisme.
Ben écoute, je ne l'ai pas ressenti comme ça.
Alors, je vais clore le débat parce que je vais continuer pendant des heures là-dessus. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette BD, c'est le travail sur le rythme. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur ces problématiques-là. Il va y avoir parfois des histoires où il va y avoir des cases avec gouttières classiques, etc. Mais on va travailler sur des gaufriers très réguliers au cœur de son histoire.
Ouais.
Soit des plans, des cases assez longues qui vont se succéder. Donc, travail du cadrage, avoir de l'importance, soit de séries de cases carrées qui vont vraiment créer une rythmique ouais, très précise,
qu'il a souvent utilisé, oui.
Très intéressante, et puis parfois pas de cadre.
Pleine page, un petit dessin.
Soit des pleines pages, soit un dessin qui va prendre la longueur de la bande, en fait, et une succession de bandes sans cases, etc. Et il y a une variété de rythmes. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a plu. C'est, on est dans le rythme de l'amour, le rythme du sexe qui va changer, qui va évoluer, qui va aller plus ou moins vite, enfin, qui va, selon les désirs, les plaisirs, qui va s'adapter à la situation et aux scènes. Et j'ai trouvé ça très réussi à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans cette BD-là, c'est ce travail du rythme.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, la taille des vignettes, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on est vraiment sur une zone de détail, ce qui laisse aussi du coup libre cours un petit peu à l'imagination pour imaginer éventuellement tout ce qui se passe autour de ce détail. On va avoir un détail sur deux bouches qui s'embrassent, éventuellement un bout de langue qui apparaît, mais on ne va pas avoir l'expression du visage, on ne va pas avoir l'expression des yeux, des sourcils, est-ce que les yeux sont fermés, est-ce que les yeux sont ouverts, est-ce que les personnages se regardent, est-ce qu'ils ne se regardent pas. Parfois, il y a des vignettes où il faut... oui, bah alors là, forcément, tu me montres le détail de l'œil, alors forcément.
Non, voilà, il joue sur du gros plan, en fait.
Il joue sur du très gros plan, et ça permet, voilà, de laisser un petit peu d'imagination, un petit peu d'imaginaire sur le autour. On n'est pas, voilà, sur le film porno ou érotique qui a le plan large et où on voit le canapé, la plante verte, le machin, les deux couples qui s'enlacent et tout ça. Non, là, on est vraiment sur une zone de détail.
Il utilise la technique du blason. La technique du blason, c'est de montrer plusieurs petits bouts d'un élément pour figurer le tout. Ce qui était déjà utilisé, tu vois, je vais étaler ma science, dans Le Mépris, dans la scène d'introduction du Mépris, où il parle des différents morceaux du corps de Brigitte Bardot pour la définir en tant que femme. Et là, pareil, pour nous montrer le tout, il ne le montre jamais. Il est sur du gros plan et il va vraiment nous montrer plein de petits morceaux qui nous permettent de voir la totalité.
Vous imaginez, vous savez, ces petits jeux de puzzle où il faut remettre les pièces en place en faisant glisser, sachant qu'il en manque une, et toutes les pièces sont dans le désordre. C'est ça, je te dis, c'est exactement ça.
Donc c'est un petit peu comme le début de Dallas où il y a plusieurs images qui montrent toute la famille, c'est ça?
Ok, donc on a deux références différentes, Pierrick et Mathieu, merci bien de cette intervention.
Le Mépris est un film chiant quand même, si c'est intéressant.
Non mais ça n'a rien à voir, Dallas cinématographiquement parlant c'est intéressant. Donc voilà, bref, ça fait débat, mais dans les deux cas, je pense que Mathieu tu es d'accord avec moi pour dire que...
Ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne très bien. Et c'est bien ça, c'est bien là l'essentiel, me semble-t-il.
Vos petites phrases.
Tio.
Augmentation des BPM.
Ouais, je suis d'accord. Bon, moi, je l'ai préféré insister sur le trait. Et je fais un petit jeu de mots très sensuel.
Eh bien, moi, j'ai mis va-et-vient rythmé.
Tout dans le rythme.
Elle, de Frédéric Boilet. Donc, nous avons interviewé Frédéric Boilet dans une de nos précédentes émissions spéciales des Calanques et des Bulles. Enfin, nous, vous avez, car moi, je ne l'ai pas rencontré, en fait. J'étais en train de faire autre chose à côté.
T'étais où, déjà? Tu faisais caca?
Je faisais des enregistrements et tout.
Ah oui, tu étais au débat. C'est ça.
Alors, elle, c'est en gros l'histoire de Frédéric Boilet qui nous raconte plusieurs rencontres qu'il a fait au cours de plusieurs années.
Hein, donc, elle au pluriel.
Elle au pluriel, voilà. Donc, je crois qu'il y a 6 ans carrément, quasiment, de rencontres dedans. Et donc, chacune de ces rencontres-là, Frédéric Boilet se met lui-même en image, se raconte lui-même dans ses expériences avec différentes femmes.
Japon.
Au Japon, pas mal. Pas toujours, la dernière histoire n'est pas au Japon, je crois, mais quasiment qu'au Japon. Et donc, y a ce côté personnage d'une autre culture qui arrive, qui essaie de comprendre l'autre et qui va assez cash, en fait. Cette façon de se mettre en scène, on ne sait jamais trop s'il est dans le fantasme, si c'est ce qu'il a fait, parce que la technique qu'il a pour draguer au début, c'est quand même très très fort.
Bonjour, je suis une semi-remorque.
Et ça marche.
Ah, ça marche, trop bien.
Voilà. Et donc, on a plein d'histoires qui vont travailler sur des thématiques différentes, sur des formes différentes, des techniques graphiques différentes. On voit qu'il s'essaye, il y a plusieurs styles, il y a pas mal d'expérimentation. On va avoir de la couleur directe, très travaillée, quasi photoréaliste, du dessin au trait, avec des couleurs très, très en aplat, très posées, du dessin un peu plus travaillé, avec un placement d'ombre un peu plus fort, un peu plus photoréaliste justement, tout en restant au trait. Et donc on a toutes ces choses-là qui se succèdent. Je pense que beaucoup de ces histoires-là ont été éditées au Japon, à la base. On le voit très clairement au format des bulles, qui sont en long, qui sont en hauteur et pas en largeur. Donc forcément, pour écrire les caractères asiatiques, c'est plus facile.
C'est pas faux.
Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette proche qu'il a de se mettre en danger quelque part, hein, parce qu'il se présente là-dessus, de jouer sur la fiction, parce qu'il y a aussi, de temps en temps, il brise le quatrième mur, donc on voit qu'il joue avec nous, qu'il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer, et que ce qu'il nous montre, le fait qu'il brise le quatrième mur, c'est peut-être pipeau, c'est peut-être inventé, c'est peut-être ajouté. Et puis surtout, cette diversité dans les rencontres, dans la façon dont ça se passe, dans la façon dont on vit la sexualité, l'amour avec les autres, parce que bien entendu, on est aussi, comme dans pornographie, dans quelque chose de très sexuel, très sensuel. Thio, tu es dubitatif.
J'aime bien. J'étais totalement dubitatif déjà quand on m'a passé le tome. J'ai été
circonspect par la suite.
Circonspect et ouais, totalement déçu en fait. Ça m'a pas du tout emballé. J'ai trouvé ça très très plat. On nous montre, Fred Boilet nous montre sa sexualité ou pas. Parce que comme tu dis, on n'est pas certain qu'est-ce qui est du fantasme, qu'est-ce qui est du réel, on ne sait pas. J'ai pas trouvé ça intéressant. Au niveau dessin, il y a des trucs qui sont bien. Mais ça m'a pas du tout emballé.
Pourtant, ce sont des Asiatiques, il n'y a pas grand-chose au niveau dessin. Suivant. Tizak. Enchaîne les trucs.
Ok. Allez, gars. Donc, ça se pose à 4 minutes devant toi.
J'ai pris un accent pour montrer que c'est du 14e degré. Et que...
C'est cela. Moi, je t'avoue que j'y suis allé un petit peu avec de l'enthousiasme au début. Et je vais pas aller aussi loin que Mathieu. Mais il y a certaines choses qui m'ont vraiment laissé sur ma faim. Ou en tout cas. Voilà, on pas plus emballé que ça. Donc je voulais voir comment est-ce qu'il avait travaillé sur l'aspect photographique, puisqu'effectivement on en avait parlé lors de l'interview. Et c'est vrai que c'est un support dont il se sert énormément en repérage, parce qu'avant de travailler sur papier, il fait beaucoup de repérages photo, notamment pour les lumières. C'est un aspect qui est assez important pour lui. Pour la qualité quantité de lumière et pour les jeux d'ombre que ça crée, pour les tonalités que ça peut créer en fonction des moments de la journée, il aime bien visiblement travailler lorsque la scène va se passer en fin de journée. Et ben il a envie de, puisqu'il se sert de lieux réels dans lesquels il a été, il veut avoir la vraie lumière, les bonnes tonalités, les bonnes orientations pour les ombres, etc. Bref. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un joli travail, c'est bien réussi, les ambiances sont bien rendues au sein des pièces. Les différentes histoires qui nous sont proposées sont toutes assez différentes graphiquement, même si ça reste proche en termes d'aspect photographique. Les ambiances ou les cadrages sont travaillés de manière assez différente, donc c'est sympa à la lecture. Maintenant, c'est vrai que sur le côté sensualité et moustillement, on va dire, à la lecture, je suis un petit peu comme Mathieu, ça m'a pas vraiment fait vibrer, quoi. C'est en ça que je disais à Mathieu tout à l'heure que là, dans cet album-là, pour moi, il y avait du voyeurisme. Et en l'occurrence, ce voyeurisme-là m'a pas du tout touché. Alors que le côté cru dans pornographique, là, m'a beaucoup plus touché. Alors après, pourquoi, comment,
je sais pas, au même moment. C'est le style qui est plus réaliste. Ce qui fait
peut-être que le style réaliste.
Tu peux moins t'approprier les histoires.
Exactement, c'est possible. Peut-être que ça m'a dérangé, que ce soit peut-être trop voyeuriste. Voilà, à l'arrivée, si l'objectif était d'émoustiller, ça n'a pas marché. Le côté, on va dire, sociologique, entre guillemets, de l'approche des Asiatiques, leur réaction face à un étranger, face à un Français qui s'intègre dans cette société-là, etc., est pas inintéressant, loin de là.
Ouais, mais je trouve que ça sonne un peu creux. Parce que même là-dedans, j'ai l'impression qu'on va pas au fond de ce que, je pense qu'on aurait pu apprendre justement de ça. Mais parce que du coup, il te dit oui, c'est la découverte d'un autre monde, d'une autre façon de voir les choses. Mais.
Ok. C'est étonnant, j'ai un Malteser sans faire de bruit. Vas-y, continue. Okay.
Tout en allant au fond des choses.
J'ai arrêté où ? Oui.
Au fond des choses.
Au fond des choses, c'est ça.
Je suis désolé, tu t'es arrêté là-dessus.
Fred Boilet voilà, nous a dit lors d'une interview voilà, qu'il essayait de nous montrer l'autre partie du pays du soleil levant. Et moi, quand je l'ai lu, Il m'aurait dit que ça s'était passé à Poissy, à Aix-en-Provence, à Madrid, à Barcelone, à Los Angeles. C'était pareil, quoi. Grosso modo, tu croises une fille, tu fais quatre dessins et il y a pas de dialogue, il y a pas d'histoire, quoi. Elle te raconte rien. Enfin, elle est où la découverte ?
C'est ça. C'est ce qui manque.
Si c'est juste découvrir un corps, bon ben ok, on en a un corps, quoi.
C'est ce qui manque un petit peu justement, c'est que vu qu'on saute d'une histoire à l'autre, on n'a pas le temps de s'attacher à un personnage, on n'a pas le temps de construire un petit peu la profondeur de ce personnage-là, et du coup ça manque de sentiments, quoi. Chose qui apparaît dans pornographique, on sent la complicité qu'il y a dans ce couple, on sent l'attachement qu'il y a au sein de ce couple. Et là c'est vrai que vu qu'on passe d'historiette en historiette, voilà, on a peut-être un peu du mal à rentrer là-dedans, et il y a un côté un petit peu trop bloc opératoire chirurgical pour qu'on arrive à s'attacher, à rentrer dans une sensualité quelconque. Donc voilà, c'est mon regret là-dessus. Après, il y a un vrai travail graphique. C'est pas inintéressant, loin de là. Hein, mais voilà, il manque un petit peu d'emballement sensuel ou autre.
Vos petites phrases pour.
J'ai presque honte.
Ben, une main sur le bouquin et l'autre aussi.
Fred Boilet de La Femme Fontaine ou pas?
rencontre sensuelle. Elle, Frédéric Boilet.
On a à boire et à manger. Hein.
Chez Ego comme X. James Joyce, l'homme des Dublins.
L'homme.
De Alfonso Zapico.
Alfonso Zapico!
Chez Futuropolis.
Alors forcément.
Pour la modique somme de 27 euros.
Et voilà, alors forcément.
Alors James Joyce, oui, en fait, je dirais, c'est l'auteur en fait que personne n'a lu.
En France?
Non, en fait, non. Si, je dirais même que t'as beaucoup de contemporains, de personnes, je pense, qui n'ont jamais lu James Joyce, j'en fais partie, mais qui connaissent tous son histoire.
Ben, moi, je la connaissais pas avant de dire ça. Hein.
Alors, disons qu'a priori, quand voilà, tu sais qu'il était alcoolique, tu sais qu'il était à peu près complètement barge, et dans le complètement, limite, là, je pense que j'en enlève encore une partie, et donc on va suivre toute son histoire. Une histoire, c'est certes qui est une biographie qui est passionnante, parce qu'on va suivre donc toute sa vie, de ses origines jusqu'à sa mort, avec tout le côté... un peu bohème de sa vie entre les différents pays d'Europe. Très bohème, parce qu'en fait, c'est l'homme de Dublin, mais qui finalement n'y a quasiment pas vécu.
Oui.
Voilà, il a vécu toute sa jeunesse, jusqu'à 17-18 ans, et puis après, il est parti. Alors, France, Trieste, Zurich, plein de villes en Europe, mais finalement, Dublin, pas trop.
Et donc on suit toute sa vie, et on découvre vraiment une personnalité, bon, déjà qui se prend pas pour de la merde, hein, il est persuadé d'être génial alors qu'il a encore rien publié.
La rencontre avec Yeats est un pur bonheur.
Oui, oui, en gros, oui, il est imbu de lui-même, et il se démonte les gens.
De toute façon, vous êtes trop vieux, si je vous avais rencontré plus jeune, j'aurais pu influencer votre écriture.
Oui, voilà, qui dit à Yeats.
C'est dommage, donc ça sert à rien qu'on se revoie, parce que voilà, vous êtes trop vieux maintenant.
C'est bon ça.
Bah dans ta gueule.
Yes. Et voilà, et le gars il a 18 ans, tu vois, c'est.
Ah là il y a de la répartie là, monsieur dame.
Ah mais non, mais il est vraiment assez odieux vis-à-vis de ça. Alors il y a des gens qui l'admirent, hein. Et on suit toute cette vie, alors avec des choses qui sont intéressantes, parce que quelque part il a toujours été avec la même femme qu'il devait aimer, parce qu'il reste toute sa vie avec.
Toute sa vie avec Nora, mais c'est vrai que tu te poses la question, tu te dis mais comment a-t-elle pu faire pour...
Non, c'est Nora Jones, c'est pas Nora Joyce.
C'est Nora Joyce. Voilà, comment a-t-elle pu faire pour le supporter? C'est
peut-être fait... l'époque aussi, les enfants, tout ça. Enfin, même, ouais, enfin, bon, façon non, mais, était tellement...
Il était, mais enfin, il devait être imbuvable, quoi. Invivable. Enfin, c'est... Voilà,
Mais on sait pas, peut-être que le soir, il avait pleuré dans les bras de sa femme.
Ah, peut-être. Non, mais oui, bah, sous l'alcool, il y a des fois, je pense qu'il devait pleurer.
Je suis ravi de merde.
Il reste un personnage attachant, je trouve.
Tout au long de l'histoire, voilà, on nous décrit donc un Joyce qui est alcoolique, infidèle, qui part toujours dans tous les excès, qui a jamais une thune, qui dépense tout dans l'alcool, les femmes... Voilà, du coup,
ça fait la fête cher aussi.
Il fait la fête, mais sans jamais réfléchir à quoi que ce soit. Limite, on se dirait quoi, il dit tout le temps la vérité, sans se soucier de se dire tiens, il faut du politiquement correct.
Et il arrive à trouver des soutiens parce que c'est quelqu'un, enfin, qui devait être suffisamment génial pour que des gens, en tout cas, il arrivait à les convaincre qu'il était génial. Il avait des mécènes, mais même des mécènes anonymes. C'est-à-dire qu'il avait deux gros mécènes dont il connaissait pas le nom. Et donc il l'apprend plus tard. Il y en a qui le lâchent en cours de route parce que des fois il va un peu trop loin aussi. Et puis il avait une façon de travailler les littératures très, on va dire, postmoderne pour l'époque. Apparemment, enfin, j'ai pas lu ses bouquins donc je pourrais pas dire. Mais ça choquait parce que c'était pas, ça passait pas. Il parle longtemps de.
Bah son Ulysse a été pendant des dizaines d'années interdit aux États-Unis parce que il était jugé pour pornographique.
Voilà. Donc sa version du
livre. Que ça mettait voilà, les mœurs américaines en danger.
Et donc il a dû passer par des imprimeries pirates, parce qu'il y a des gens qui voulaient le sortir. Et puis finalement, il y a eu un procès où il a fini par avoir l'autorisation de le publier. C'était imprimé dans la foulée, il y avait des précommandes que ça n'en pouvait plus.
Mais enfin oui, ça a été aussi fait parce que ça faisait 10 ou 15 ans qu'il était en attente d'impression aux États-Unis. Et bon, voilà, le juge dit oui, la société a évolué depuis, donc bon, maintenant on peut dire que Ulysse peut être édité.
Et il passait déjà, enfin, c'était prépublié dans des magazines aussi à l'époque, hein, les romans.
A priori, voilà, ce qui est souvent beaucoup reconnu quand même dans le talent de Joyce, c'est surtout sa maîtrise de la langue anglaise. Il critiquait énormément tous ses contemporains. Parce que il a réussi à récupérer tout ce qui était excellent dans tous ses prédécesseurs. Je crois que justement c'est son recueil de poèmes sur c'est à la fin qu'il explique son premier recueil de poèmes qui s'appelle.
Dans le micro, s'il te plaît.
C'est un artiste, parcours d'un artiste, j'ai plus en tête, qui disait voilà, qui nous raconte que c'est un petit recueil de poèmes sur les chansons élisabéthaines. Qui date du temps de Shakespeare et qui paraît-il est exceptionnel. Après voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais lu Joyce, mais on connaît, enfin moi en tout cas je connaissais quand même pas mal de choses de sa vie. Après, toi tu l'as pas lu?
Non, je l'ai pas lu non. Par contre, du coup, ça me donne envie de lire Joyce.
Alors moi je.
Tu vois un personnage comme ça, un peu haut en couleur. Ouais, c'est tout con, hein, mais ça donne toujours.
Là, t'avais du noir et blanc, mais c'est très très haut en couleur.
Oui, donc album noir et blanc niveau de gris.
Moi, le dessin, justement.
J'ai trouvé l'histoire super intéressante, c'est-à-dire que l'histoire de Joyce est sympa. Le dessin est assez simple, assez caricatural, très rond, personnage, enfin caricatural, mais enfin, un dessin simple, qui va pas dans le photoréalisme, qui essaye d'être assez direct. Par contre, c'est très, très, très narratif. Moi, en gros, on pourrait presque le lire sans les images.
L'image n'apporte rien.
Ouais, l'image, malheureusement, apporte assez peu. Alors si, sur certaines cases, certaines planches, ça va avoir un sens, mais l'image apporte peu. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vraiment lu comme une BD. Donc, moi, c'est le truc qui m'a un peu...
Ouais, c'est dommage.
Que j'ai trouvé un peu dommage, même si j'ai trouvé l'histoire géniale, quoi. Mais voilà. On est vraiment dans le récitatif, avec une illustration... Il n'y a pas de travail de « je dis quelque chose, j'illustre avec autre chose », donc on va avoir l'illustration du texte pur.
Ah ben, en fac de langue anglaise, alors pour les élèves un peu feignants qui se disent « oh, j'ai pas envie de lire un pavé sur James Joyce », on leur met des images, ils sont contents, c'est bien.
Oui, oui. Mais voilà, ça manque un peu de la folie, quoi. Enfin, voilà, la donc forme aurait pu aller avec le fond. C'est-à-dire, on parle de la folie de James Joyce, on aurait pu avoir plus de folie dans la BD, en fait.
Bah surtout, c'est que ça aurait peut-être pu davantage illustrer justement ces écrits qui sont jugés voilà, pornographiques pour l'époque, décadents. Et finalement, bah, on a à aucun moment dans le bouquin ne sont cités des passages.
Il y a quelques extraits, mais très peu.
Non, vraiment, t'as plus de 200 pages au niveau de James Joyce, t'as rien, quoi. C'est un petit peu dommage. Mais pour l'autre côté, c'est que voilà, moi, je l'ai lu en une soirée quasiment. Et ça se lit voilà, très facilement parce que la vie de James Joyce est quand même passionnante.
On a une postface à signaler de Valérie Larbeau, qui est un texte d'une conférence qui a été faite sur James Joyce il y a, je sais plus quand, bref, il y a longtemps. C'était précisé, mais je trouve plus la date. Enfin bon.
1922.
Pff, 22, ouais, un truc dans le genre. Donc vieux. Allô, voilà, qui donne plein d'infos sur James Joyce, etc. Bon, clairement, Futuropolis, beau bouquin, belle édition, rien à dire là-dessus.
Sont pénibles, on dit tout le temps pareil avec Futuro. Voilà,
c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Non, non, on dit tout le temps que c'est bien. Là, ça raconte bien l'histoire de James Joyce, mais honnêtement, en bande dessinée, ça n'apporte rien.
Ouais.
Bon, ça n'apporte rien parce que la forme, comme tu dis, voilà, reste trop proche du récit, alors qu'à mon avis, avec quelque chose d'un peu plus barré, d'un peu plus d'un peu plus haut en couleur. Voilà, c'est ça qui manquerait, je pense. C'est vraiment un côté un peu fou. On aurait pu avoir quelque chose d'être vraiment excellent. Et là, on est dans une sorte de classicisme, justement dans le classicisme que dénonce Joyce et qui le gonfle dans l'Irlande de l'époque, quoi, où ça bouge pas, où on reste toujours plan-plan, le petit chien de...
Est-ce que c'est pas fait justement pour dénoncer le côté conformiste de la bande dessinée
Peut-être, mais...
Tu vas chercher loin.
Mais je pense que tu vas chercher trop loin, tu vois.
Ok, vos petites phrases.
Délire sous alcool.
Bah, lui, mais je n'ai pas lu. J'ai mis une petite barre.
Du texte imagé.
Tiens, on te le prête.
Merci, c'est gentil.
230 pages.
Nous allons vous parler du fanzine Anachronique, le numéro 16, qui est paru pour le Festival des Calanques et des Bulles, mais bientôt on arrêtera de parler du Festival des Calanques et des Bulles jusqu'à l'an prochain, parce qu'on en reparlera sans doute l'an prochain.
En couleur.
En couleur.
Pas le festival, hein, Anachronique.
Donc, fanzine Anachronique, c'est un fanzine. Donc, si vous écoutez l'interview, il vous explique qu'il y avait dans le spécial des Calanques et des Bulles, le numéro 1, vous avez un peu tous les détails sur du quoi, du comment, du pourquoi, est-ce qu'ils ont fait ce fanzine. Donc, on a plein d'auteurs jeunes qui sont là pour apprendre et qui font un fanzine pour apprendre, s'améliorer, progresser. Il y a vraiment un niveau sympa. Enfin, Anachronique, je le suis, comme ils sont de la région, je les suis depuis un moment, et à chaque fois que j'ouvre un de leurs nouveaux fanzines, alors j'accroche ou j'accroche pas au BD qu'il y a dedans, mais à chaque fois il y a une progression, une augmentation de la qualité que je trouve super sympa. Maintenant, globalement, c'est très varié. On va avoir de l'humour, on va avoir des histoires un peu plus sérieuses. Donc il y a à boire et à manger, quoi. C'est pas évident de se le procurer si on n'est pas dans la région. On peut le commander, mais en tout cas, ouais, ça permet de découvrir plein d'auteurs avec des styles modernes, variés.
Alors moi, qui n'ai pas suivi, les numéros d'Anachronique, est-ce que les histoires sont des histoires suivies à chaque fois ?
Non, c'est toujours des histoires en one shot. Alors après, il y a de la série entre guillemets. On parlait de Lapin et Tortue dans l'émission précédente. Les Lapins et Tortues sont prépubliés dans Anachronique. Et donc on va avoir entre guillemets, les personnages peuvent évoluer un petit peu, mais chaque fois ça peut se lire indépendamment. Il y a des trucs des strips débiles, il y a une histoire de merde par exemple, on a des trucs plus sérieux, un peu d'aventure, par exemple l'histoire Kibi dessine là, moi m'a bluffé parce qu'il utilise un style qui n'est pas celui qu'il utilise d'habitude pour Lapin et Tortue et qui... Tu fais « Ah, il sait faire ça aussi wow. !»
Ouais.
Ça en jette pas mal.
C'est vrai que c'est l'avantage un petit peu de ces magazines, c'est que les auteurs ne sont pas contraints par une édition ou une éditoriale ou un désir du lectorat ou l'éditorial. Donc, à un moment donné, c'est sympa de pouvoir les voir se lâcher. Ils ont un espace, du coup, d'expérimentation qui est non négligeable. Et c'est vrai qu'en termes de qualité de dessin, moi j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Honnêtement, en y allant, je pensais pas acheter un numéro ou deux. Hein, donc là, vraiment, j'ai été bluffé par le contenu graphiquement parlant. Après, il a fallu que je me plonge un petit peu dedans au niveau des histoires, mais graphiquement parlant, tout de suite, ça parle, quoi.
Bon, moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est le travail de Pam, la Lawless Chess Quest, qui est une histoire qui graphiquement on jette. Alors c'est un peu décousu au niveau de l'histoire, c'est un truc sans parole, mais alors au niveau des dessins, waouh, je trouvais ça vraiment impressionnant. Vous avez eu une histoire qui vous a...
Pas une plus qu'une autre. Graphiquement, encore une fois, c'est... tout est intéressant. Voilà, Après, sur un contenu aussi court à chaque fois dans chaque histoire, je trouve que c'est compliqué d'arriver à dégager un avis vraiment tranché. Mais graphiquement parlant, j'ai trouvé que tout était intéressant et que les univers qu'ils présentaient au sein des BD étaient tous intéressants. Voilà. C'est
l'histoire de passe-temps qui m'a beaucoup plu. ouais. Sur en attendant la fin.
Ange.
Oui, avec des anges.
Ouais. Et qui disent ouais, on va voir ce qui se passe sur la Terre. C'est... Non, c'est ça, c'était bien, ça m'a bien fait rire. En plus, le style graphique qu'il a pris est pas mal. En plus, il y a sa dédicace dedans.
Ouais, il y a Dieu qui parle. Dieu...
Bon, ta dédicace, elle déchire encore plus, quoi.
Oui, il m'a dessiné un dieu gigantesque.
Bah, il dépasse de la feuille, en fait.
Oui, il dépasse totalement. Il dépasse Dieu, il n'a pas la place pour dessiner une feuille. Il a un ego trop gros, Dieu.
C'est ça. Mais du coup, il a pris tellement de temps, passe-temps pour te faire ta dédicace qu'il n'a pas pu aller faire les notes.
C'est ouais. Ça, pareil.
Non, moi aussi, moi, j'ai eu un...
Ouais, j'ai un petit ange, moi.
Ah, moi, j'ai eu des petits fléaux.
Donc moi je dis que ça a surveillé parce que je pense qu'il y a des futurs grands de la BD dans ce fanzine et franchement
et la petite Jeannette là.
Ouais qui fait une petite illustration puis d'autres hein, je vois, c'est l'illustration de derrière par Adré magnifique
Et Silver aussi
qui Silver ouais il fait un dessin putain il en jette hein, son dessin
ouais ça c'est claque
c'est bien la classe
ouais.
Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. On est dans du fanzine, c'est intéressant si vous voulez découvrir des nouvelles choses, si vous êtes curieux.
Puis c'est toujours sympa d'avoir des choses sur des auteurs qui peuvent aussi percer peut-être dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, les voir à leur début, dans leurs essais, c'est toujours agréable.
Je me souviens quand j'achetais Dreamon avec ces petits jeunes de Florence Torta et Philippe Cardona, qui faisaient leurs petits dessins rigolos dans ce fanzine imprimé à l'arrache moche.
Maintenant ils volent leurs propres ailes.
C'est beau. Vos petites phrases.
Le retour du chihuahua anti-allergique. Petite dédicace.
Et les splendides ton chihuahua. Phrase désormais célèbre d'un certain Arthur de Pince.
Arthur de Paix.
Qui a du coup torturé longuement une certaine Laila.
Moi j'ai mis bordel créatif parce que je me suis dit que j'allais pas faire que du privé de joke.
C'est bien.
Toi t'es un politiquement correct, non?
Tu n'es pas James Joyce, toi.
Je ne suis pas James Joyce. Et toi, tu vas nous parler d'un truc...
Complètement barré.
Sortez les seringues, sortez la poudre.
C'est ça. Un petit cacheton. Parce que... Donc du coup, je dois résumer de manière succincte et assez simple. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Century 2009, tome 3.
Faites ouais.
Ouais, alors, c'est pas tout dans le bon ordre. C'est comme les SMS de Mathieu, ça. C'est un peu bogle.
2009, c'est le tome 3 de Century.
Century, oui, mais c'est Century ouais, c'est... 2009, c'est le tome 3. Ça, je veux dire,
mais
que
du coup, t'es 1910, c'est redondant, 2009 et tome 3.
C'était 1910, ouais,
1969.
Ouais.
Et 2009.
Dans les épisodes previously.
Donc, déjà, on va dire quand même que c'est Alan Moore et Kevin O'Neill. Hein, ça, voilà, comme ça s'est fait.
Ils ont débuté dans l'anachronique.
Ouais, exactement. Donc c'est chez Delcourt, alors la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, donc ça nous permet de revisiter des héros de la littérature anglaise,
ouais.
Essentiellement. Alors vous avez vu une très mauvaise adaptation à la télé il y a de ça quelques années de la première Ligue des Gentlemen.
Avec Sir Sean Connery.
Mais finalement il était pas mauvais lui.
C'était pas le pire.
C'est ça.
C'est pas le pire.
Et...
C'est pas son dernier film ? Je crois.
Honte, et ensuite, il était au club des suicides.
C'est ça ? Ouais.
Oh, quelle transition.
Donc, c'est pas encore. Alors, on croise donc des héros donc de la littérature anglaise. Alors ici, actuellement, on a donc Mina, qui était donc la femme, enfin l'amoureuse de Dracula.
La fiancée de
Jonathan Harker. Qui est tombée amoureuse de Dracula et qui elle-même est devenue donc un vampire, donc immortel, et qui vit donc depuis très 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 longtemps.
Avec un foulard.
Ah oui, parce que forcément elle démarque un feu dedans, quoi, ça c'est pas parti. On a donc Alan Quatermain. Le neuvième fils caché d'Alan Quatermain. Grosso modo, on va dire Alan Quatermain jeune.
Voilà.
Et alors, le troisième, je l'ai plus.
Orlando.
Pas Bloom.
Oui, quand c'est parfait qui peut être.
On pourrait l'appeler Rolando même.
Qui est un occultiste.
Qui est un homme ou une femme, je sais plus.
Qui change, ça dépend.
C'est ça, ouais, il change en fonction du siècle, de, ce que, de ses envies.
Il change de sexe,
en fonction de ses envies. Ouais.
Voilà.
Et donc. Et qui a quand même une.
Et voilà.
Bon, une sexualité non négligeable.
Enfin, ces trois personnages sont immortels, en gros.
Voilà, ils sont tous immortels. Et donc on les a suivis déjà en 1910 avec une histoire d'occultisme qu'ils ont.
Merdé.
Mais bon, on se dit qu'après eux, c'était fini. On est revenu en 1969 avec finalement la suite des cultistes qui n'ont pas réussi à dézinguer au premier coup, mais qui ont visiblement partiellement bloqué.
Et on arrive sans faire exprès. En 1910, franchement, ils sont pourris, hein, ils sont nuls, hein, les héros.
Alors, en 1910, ils sont mauvais. En 1969, ils sont un poil mieux, mais c'est tellement barré que moi, j'avoue que c'était vraiment
sous. Oui, c'était sous LSD.
C'était sous LSD.
En 69.
C'était compliqué à.
Mais à la fin, ils arrivent à arrêter les occultistes comme ils peuvent.
C'est
empêcher
ça.
Le grand méchant de prendre contrôle d'un corps.
Enfin, mais ils y arrivent.
Presque.
Et on arrive en 2009 avec donc toujours nos trois héros qui essayent de finir. De dézinguer ce qui reste et on y arrive assez bizarrement. Il y a beaucoup de raccourcis, c'est dur, c'est, là tu souris mais c'est vachement dur à résumer cette Ligue des Gentlemen Extraordinaires parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de références anglaises qu'on n'a pas forcément.
C'est très érudit en fait. Alan Moore est très érudit, à une grande culture littéraire.
Donc ça fait beaucoup de références, etc. En fait.
Et c'est vrai qu'il nous perd.
Ou ouais. C'est très érudit.
Ouais, c'est ça. En fait, ça fait appel à beaucoup de références anglaises qu'on n'a peut-être pas forcément.
D'ailleurs, parlant de références, comment est-ce qu'on peut lire ce tome-là, par exemple, si on n'a pas lu tous ceux d'avant?
Ah, justement, Isaac, comment est-ce qu'on fait pour lire le tome 3 sans avoir lu le tome 1, ni le tome 2, ni la première Ligue des Gentlemen?
Les deux premières saisons.
Alors, le principe étant d'essayer de faire une forme de supputation théorique sur les antécédents de la bande dessinée en question, connaissant quand même partiellement l'univers de la Ligue des Gentlemen. Franchement, c'est un sacré merdier, quoi. Je me suis un petit peu arraché la tête, en fait, quand je l'ai pris. J'ai commencé à feuilleter, j'ai fait « Oh, c'est quoi ce bordel ?» J'ai regardé un peu mieux la couverture, et là, je vais marquer tome 3. Merci, les gars. Sympathique. Et donc, je me suis dit « Bon, écoute, imagine que tu as raté le début de la série ou tu arrives en plein milieu de la séance du film, et puis tu te démerdes avec ça, quoi. » Mais il n'empêche que ça en reste quand même assez intéressant. Et on plonge bien dans l'univers totalement barré. Bon, du coup, on rate quand même la moitié du pourquoi, du comment de l'histoire. Hein, voilà. Lisez quand même bien, franchement, tout le reste. Hein.
Mais ouais, je dirais quand même que le souci, c'est que même en ayant lu le reste, j'ai eu l'impression d'avoir aussi raté des étapes.
Et oui, pourtant, alors,
c'est ce que je disais à pied tout à l'heure, hors caméra.
Hors champ.
C'est quand même d'une case à l'autre ou d'une planche à l'autre, on tourne la page, on fait putain, mais il y a des pages collées ou quoi, il y a des gros raccourcis quand même, et ça suppose quand même une énorme maîtrise de la compréhension de l'ensemble du scénario. Enfin, ça va vite, hein, ça va. Alors, vite,
le fait est qu'on a effectivement, le scénario est complexe effectivement parce qu'il va à travers le temps, que les personnages ne voient pas tous les tenants et aboutissants de ce que font les méchants dans tous les sens. Puis, on a raté les blagues dossiers qui devraient sortir, à ce que je peux comprendre bientôt, mais qui est en gros un recueil qui se situe entre les deux premières histoires et la série Century, qui fait qu'on voit un peu comment ils sont passés entre les époques, quoi. Parce que c'est vrai qu'il manque un bout. Je suis pas sûr qu'on comprendrait mieux, parce que...
Justement, ça fait appel à tellement de références anglaises que nous, ça nous touche moyennement, quoi. À moins d'avoir vraiment...
Mais je pense que c'est le genre de BD qu'on peut étudier, tu vois.
Ah oui, c'est sûr, mais...
Il y a des choses super intéressantes, c'est bien foutu, c'est bien écrit. Tu sens qu'il y a de l'intelligence derrière, mais tu te dis, il y en a trop pour moi.
Je pense que si t'as pas beaucoup de références, il y a des moments où t'en captes certaines, mais tu les captes pas toutes, quoi.
Ouais, moi j'en ai capté, parce que j'ai capté des références à Doctor Who, par exemple. C'est très léger, juste des personnages qui passent dans un décor, etc. Il y a une référence à Drive Shaft, le groupe d'un des personnages de Lost. Pareil sur une affiche, c'est sa fourmi de détails qui servent pas forcément au récit, mais qui l'ancre dans son époque. Puis voilà, enfin on est vite perdu. Et pourtant, moi je sais que je sens qu'il y a quelque chose, quoi, que je rate, et ça m'énerve.
Je pense à ce thing. Il y a un petit côté frustrant où effectivement on sent que dans le dessin, dans la narration, enfin il y a de la richesse, il y a tout un tas de petits clins d'œil, et à un moment donné, on sent qu'il y a un truc à comprendre, mais on ne comprend pas, quoi.
Je me relirai peut-être tout dans l'ordre quand il y aura les blagues dossiers de sortie, pour être sûr que j'ai rien raté, mais c'est vrai que c'est plein craqué de trucs, quoi, dans tous les sens.
Alors la question que je te poserais juste, c'est est-ce que pour les blagues dossiers, ils vont sortir avec en entier, étant donné qu'il y avait des problèmes de...
Apparemment, ils ont réglé des problèmes de droit,
qu'ils avaient des problèmes de droit,
sur les citations de noms de personnages, etc. mais c'est assez bordélique.
Et donc voilà, pour finir, je dirais quand même, ça me laisse un petit goût d'inachevé, dans le sens où quand tu finis une bande dessinée et que tu te dis j'ai raté des trucs, mais même en la relisant, tu as toujours raté les trucs, c'est un peu dommage. Ou alors il nous faudrait un petit schéma explicatif à la fin.
Ouais.
La Ligue des Gentlemen pour les nuls.
Par contre, voilà, le point quand même qu'on va relever, c'est cette façon de montrer l'évolution du siècle à travers des immortels et comment est-ce qu'on peut vivre cette immortalité, c'est-à-dire pas forcément bien, avec le monde qui change, mais qui change.
Le Quatermain, il est intéressant, je trouve, comme
Orlando personnage. Aussi. Enfin, le monde change tellement. Oui. Je veux dire, 1969, qui est vraiment la phase de transition, et 2009, maintenant, un peu l'année des désillusions, etc. C'est... t'imagines, si tu vivais tout ça en restant aussi jeune, aussi péchu, comment tu fais, quoi?
C'est ça. Et puis, mais justement, je trouve que c'est peut-être la partie qui est la plus intéressante, parce que ça permet de te faire une espèce de petit coup de gueule par rapport à la société, de la façon dont elle évolue, etc., à travers l'œil de ces immortels, puisque les personnages sont immortels. Je trouve que c'est le petit clin d'œil sociaux intéressant dans cette BD, et qui est bien rendu justement dans le rythme. Tout à l'heure je disais que justement il y a des coupes franches, mais je trouve que d'une certaine façon ça illustre assez bien ce qui peut se passer éventuellement dans la tête de ces personnages qui sont immortels, qui donc doivent gérer une histoire de plusieurs centaines d'années, mais avec leurs souvenirs. Alors, on se doute bien que nous, sur une vie ou même sur une semaine, il y a des trucs qu'on a zappés.
Oui.
Donc là, quand on doit sauver le monde avec des souvenirs qui datent il y a 400 ans, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, en tout cas, la temporalité, la gestion de la temporalité individuelle est bien amenée, bien foutue. C'est intéressant.
Vos petites phrases, Ti.
La Ligue des Gentlemen ou comment sauver le monde sous acide.
Tio.
Mauvaise descente de LSD.
Et pour moi, c'était hermétisme hermétique. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires chez Delcourt, c'est bien ça, si je ne me trompe pas.
Delcourt.
C'est ça.
Voilà, par Kevin O'Neill et Alan Moore.
Je bande le lundi, je me noie le mardi, je m'émballe le mercredi, et les autres jours aussi. Je n'ai que en janvier, mais ventre en février, mars, avril. Je me suis sidéré tous les jours, mon Prozac utile.
Ce titre vous est offert par le comité d'entreprise d'Orange.
Splash page.
C'est pas ça?
Non, c'était pas ça. En tout cas, je pense que si, avec ce qu'on vient de faire là, nos auditeurs ne se sont pas suicidés, c'est que nous avons raté notre coup, car c'était notre objectif. Ouais. Nous allons vous parler du club du suicide.
Dédié Vaccaro.
D'après...
L'œuvre de Robert Louis Stevenson.
Il n'est pas Alexandre.
Et Clément Balou aussi. Hein. Oublie pas Clément Balou, oui. Au scénario quand même, à l'adaptation.
C'est ça. Donc c'est Balou et Vaccaro.
Et pas Dumas. Hein. Ni père ni fils.
Voilà. Bien c'est parti. Thierry, Tizac, vas-y, oui. Fais-nous un petit résumé du propos de la chose, en parlant bien dans ton micro.
C'est pas si évident que ça, en fait. Alors, je vais essayer de faire ça de manière un petit peu simple. Donc, d'après le titre, on a compris qu'il y a un club du suicide. On va avoir un riche lord qui aime bien expérimenter tout ce qui peut le faire vibrer, tout ce qui peut lui créer des sensations.
Le prince de Bohème.
C'est ça, le prince de Bohème. Et il a son fidèle... accompagnateur.
C'est son sidekick, c'est Robin.
C'est ça, c'est son sidekick.
Un militaire,
enfin ex-militaire, qui le suit partout en guise de garde du corps pour le protéger de lui-même, généralement. Et donc, hasard et coïncidence, il va tomber sur cette entité qui est le club du suicide. Et il va être assez intéressé par découvrir ce que ça peut représenter. Pour faire simple... Il y a une forme de tirage au sort qui est réalisé au sein de ce club. Parfois, personne n'est tiré au sort. Parfois, ça tombe sur l'un des membres de ce club du suicide. Et si le membre est tiré, il doit accepter son sort, à savoir mourir. Donc, lorsqu'on s'inscrit dans ce club, on est à la recherche
peut-être de la sensation de frayeur que de pouvoir se faire tirer au sort. Sauf qu'il faut bien savoir que si on est tiré au sort, il faut passer à l'acte.
D'autant plus qu'il y a une seconde carte qui est tirée, elle aussi.
Et c'est là que les choses se corsent, puisque la personne va mourir, mais pas de sa propre main, de la main d'un autre membre du club. Ce qui permet donc de resserrer les liens entre les différents membres, puisque tout le monde à l'arrivée pourra être impliqué, soit dans la mort de quelqu'un d'autre, soit directement concerné par sa propre mort. Ça crée des liens.
Et le prince de Bohème, il n'aime pas ça.
Il n'aime pas du tout ça, et donc il va se mettre en tête de démanteler cette odieuse organisation, et bien évidemment le président de ce club du suicide ne l'entend pas de cette oreille, et on commence à rentrer dans un scénario relativement complexe, avec pas mal de rebondissements, pas mal de tiroirs, pas mal de personnages secondaires, mais qui vont avoir leur importance dans la réalisation de la suite du scénario. C'est pas un bouquin qu'on lit entre deux pubs, quoi. Y a une densité non négligeable au niveau du scénario, au niveau des implications et des imbrications de personnages. D'autant que ceux-ci, au niveau de leur représentation graphique, vont pouvoir être transformés en cours de route à dessein, pas de manière involontaire ou maladroite de la part de Vaccaro, mais vraiment à dessein. Et donc c'est un petit peu compliqué, en tout cas, et ça demande à nous, lecteurs, un minimum, voire un maximum d'attention pour garder le fil conducteur de l'histoire. Et on se laisse quand même bien transporter par tout ça. Il y a une belle enquête, il y a pas mal de rebondissements,
c'est un joli suspense,
il y a trois actes très bien marqués, trois temps vraiment forts dans ce bouquin qui compte quand même, Mathieu, tu vérifies s'il te plaît, mais de mémoire il y a 130 ou un truc comme ça. Donc c'est...
Oui. 93 pages.
Ok, bon, voilà, bon, il y avait un 3.
À peu près,
c'est comme toi, tout à l'heure avec le 2.
C'est le 2.
Et donc voilà, c'est du costaud, c'est du dense, et le scénario, l'air de rien, est bon, très bon.
D'accord, bah oui, effectivement, moi c'est quelque chose qui m'a bien pris. J'étais vraiment. Je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas que c'était du Stevenson à la base. Bon, mais alors, l'intrigue est. Waouh, tu rentres vraiment dedans, t'as envie de savoir ce qui va se passer. C'est très moderne dans la narration, alors je sais pas si ça vient de l'adaptation de Clément Balou, ou si c'était déjà moderne sous les mots de Stevenson. Mais c'est vraiment péchu, il y a des personnages vraiment haut en couleur et intéressants. J'ai vraiment été bien pris dedans, et puis une patte graphique qui colle bien pour représenter l'époque... dans des teintes qui le font bien dans les sépias, tout ça. Enfin, c'est vraiment très, très, très classe. Moi, j'ai vraiment adoré cette BD.
Ben, moi, j'étais très surpris de... Ben, que, voilà, déjà, de l'histoire de Stevenson. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est bien intéressant. Après, j'ai eu une petite coupure, justement, dans les trois parties qui sont... de l'histoire, j'ai eu une petite coupure parce que j'ai eu du mal à passer de la première à la deuxième histoire parce que comme tu disais, je me suis un peu perdu. Je savais plus qui était qui et surtout pourquoi est-ce qu'un des personnages était présent. Je savais même pas qui c'était, pourquoi il était là. Mais finalement, c'est un bon petit scénario à tiroir où à la fin, on a un petit peu la révélation comme dans un petit Sherlock Holmes. Et très bien mené. Très
on est vraiment dans cette ambiance Sherlock Holmes, je trouve. Ouais. Hein, voilà. Il y a de l'enquête, il y a de l'action. Voilà.
Il y a du duel.
Il y a du duel. On ne sait pas qui sera le plus fort à l'arrivée. Voilà, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Mais c'est vrai que, comme toi, comme je disais tout à l'heure, c'est dense au niveau du scénario. Il faut éviter de perdre le fil. Et il a fallu, comme toi, que je revienne un peu en arrière pour arriver à retrouver le fil que j'avais perdu moi aussi entre les deux premiers actes.
Moi, je sentais qu'il y avait un lien, donc parce que de toute façon, les personnages dès le début sont grimés, hein, vu qu'ils se, oui. Ils se griment pour essayer de trouver ces clubs qui vont exciter ces clubs de l'étrange, ces choses un peu originales, parce que c'est ce qui donne envie au prince de Bohème derrière. Mais ça reste un personnage très positif, très empreint de justice, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté manipulation. on a des personnages qui sont manipulateurs, qui dirigent le club, hein, le président du club, et on a du complot, on a de l'intrigue, c'est très 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 pointu, enfin c'est très bien écrit, on a des surprises régulièrement en fait, des retournements de situation, des personnages qui changent de camp, et un final de toute beauté.
Oui, c'est assez épique au niveau du final. Hein.
Oui, voilà, c'est... Enfin, il y a de l'action, de l'aventure, du scénario intelligent à tiroir, ces trois actes qui donnent trois ambiances et trois tons différents. À la fin du premier acte, j'étais surpris que l'acte s'arrête là.
Oui, justement, on attend la suite. Ah, et il y a un petit pont, il y a un petit grand écart à faire pour rentrer dans l'acte 2.
Donc voilà, enfin, je sais que j'ai vraiment trouvé ça, je l'ai dit hein, déjà, j'étais à fond dedans.
Ouais, oui, c'est alors encore une fois, c'est je sais pas si c'est une volonté réelle de l'auteur. Alors peut-être que c'était comme ça aussi dans l'œuvre initiale, hein, mais je sais pas si c'est une volonté de l'auteur que de créer réellement ce grand écart à faire entre chaque acte pour les marquer, pour les trancher, ou si c'est, j'ose le dire, une maladresse scénaristique. Mais c'est quand même raide d'arriver à suivre l'histoire. Malgré ça, on a envie d'y aller, quoi. On a envie de continuer. L'ambiance, moi, c'est un truc auquel je suis assez sensible, est vraiment très bien rendu et je suis assez fan des Sherlock Holmes. Et je trouve qu'on se replonge volontiers dans cette ambiance de Sherlock Holmes, avec un héros qui, pour le coup, a beaucoup plus de loyauté, de grandeur d'âme, d'honneur. Que ce que peut en avoir un Sherlock Holmes qui, on le sait, est capable de tout un tas d'entourloupes, a une vie personnelle qui peut être beaucoup plus dissolue que celle de ce Lord, qui, bon, certes, est à la recherche d'émotions fortes, donc il va un petit peu aux limites et il essaie de dépasser un petit peu les limites, mais ça reste toujours dans le respect d'autrui, toujours dans le respect de l'être humain. Jamais dans une forme de, je cherche mes mots, de distorsion de l'être humain et de son âme, de vraiment, on essaye de rester dans la noblesse, quoi. On pousse les limites de l'être humain dans ce qu'il a de plus noble.
Après, au niveau du scénario, je dirais quand même que Stephenson est, enfin, pour l'autre livre que j'ai lu, donc L'île au trésor, ça reste quand même aussi un écrivain qui laisse un petit peu de vide dans ces scénarios. Tu as dans L'île au trésor des passages où tu passes complètement à vide, tu passes d'un truc à un autre sans qu'il y ait des fois beaucoup de liens de manière assez évidente. Donc peut-être que c'est aussi dans le scénario original.
C'est pour ça tout à l'heure il faut choper le livre.
Il faudrait le choper. Ça. Il a 2 euros chez Folio.
Voilà, donc,
il y a une version numérique sur les liseuses.
Sans doute.
Oui, à une dizaine d'euros.
Non, parce que l'avantage c'est que Stevenson
il troll.
Non, Stevenson il est mort depuis tellement d'années que ça doit être
libre. C'est le traducteur qui joue.
C'est libre de droit.
C'est comme Arnold et Willis.
Oui, Carole. Tu vas le trouver. Ouais.
Donc voilà.
Parlons un peu des auteurs. On va commencer par Clément Balou, le scénariste. Alors Clément Balou, donc est un auteur. Il avait fondé la Maison qui pue, un collectif de bande dessinée très expérimental, des trucs assez sympas, assez variés. Clément Balou, c'est aussi donc un dessinateur, hein, quand même à la base. Il a fait des récits un peu intimistes, assez sympathiques. À ce que j'en ai vu, je les avais feuilletés parce que Clément Balou fait aussi partie du Zarmatelier. Donc
encore
l'atelier de bande dessinée, enfin d'auteur de bande dessinée de Marseille, enfin avec Eddie Vaccaro, son dessinateur. Et donc Clément Balou aussi fait pas mal de scénarios à gauche à droite pour d'autres auteurs. Et ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il fait plus de scénarios que de dessins. Eddie Vaccaro, quant à lui, aussi auteur du Zarmatelier, on avait lu Champion Z,
qui était vachement bien,
super bien. Donc c'était il y a un petit moment maintenant.
Ouais.
Et là, il repart sur un style graphique qu'il a su adapter, je trouve, à son histoire. Champion Z, il avait un style un peu plus réaliste, qui collait plus au côté historique. Là, il part sur un côté un peu plus humoristique dans le ton, des dessins un peu plus exagérés dans les traits, un peu plus volubiles dans les mouvements des personnages, etc. Donc voilà, c'est pour à peu près ce que je sais de ces deux auteurs-là. Je sais que moi j'aime beaucoup le travail d'Yves Caro. J'avais adoré sur Champions Z, ouais. C'est très joli. Et la dédicace que tu as eue est superbe.
Ouais, je confirme et je remercie encore une fois Yves Caro. J'espère qu'on pourra le rencontrer puisqu'il est prévu qu'on le contacte et qu'on essaie de se voir dans le courant
oui,
de l'été.
Il n'est pas loin.
Il n'est pas très loin, donc j'espère que ça pourra se concrétiser. Parce qu'il y a, vraiment, je pense, des choses à dire là-dessus. Et pour le coup, j'attends avec grande impatience la suite de ce qu'il pourrait nous proposer comme travail. Parce qu'il a vraiment un style graphique qui est vraiment de toute beauté. Et qui, pour le coup, colle vraiment très bien à cette ambiance et à cette époque. Et bon, après, accessoirement, ça reste très personnel. Mais c'est un style qui me plaît. Une ambiance qui vraiment me correspondent bien et voilà, je l'attends vraiment à grande impatience la suite de son travail.
Espagna la vida 2013 avec Maximilien Leroy au scénario, Anne-Claire Jouvray à la couleur et apparemment c'est l'histoire de Guernica.
Joyeux.
Ouais mais voilà. Ah.
Quoi, ah. Non, c'est pour faire une boutade.
Ah d'accord. Donc, Le Club du Suicide, librement adapté du roman de Robert Louis Stevenson par Balou et Vaccaro, chez Soleil, dans la collection Noctambule. Un ouvrage de qualité que nous ne saurions que trop vous recommander.
Courez-y vite.
Carte blanche.
Merton, bonjour Merton.
Hello, hello.
Alors, comment vas-tu depuis le mois dernier ?
Eh ben ça va plutôt bien. Voilà, c'est l'été, il fait chaud, tout ça, c'est vraiment cool.
Et alors de quoi tu vas nous parler au niveau des ouais, l'été est arrivé, il a mis du temps, hein, j'ai remarqué.
Un peu, ouais.
Voilà. De quoi tu vas nous parler au niveau de ces nouvelles découvertes au niveau de la BD, un coup de gueule, un coup de foudre. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces derniers temps ?
Alors moi, ce que j'ai vu là récemment, c'est un peu l'offensive comixologie. Alors c'est-à-dire que on le sait, hein, ils ont voulu rentrer sur le marché européen en particulier grâce à Delcourt et à Walking Dead. Ils sont arrivés un peu comme ça. Delcourt donc a dit allez, on part chez comixologie, en portant avec eux donc le catalogue Soleil hein, qu'ils venaient juste de racheter à l'époque. Et quelques mois plus tard seulement, c'est 14 éditeurs en tout qui vont passer chez comixologie. Alors ça a d'abord été Glénat hein, qui a dit au revoir Isneo et qui est parti chez comixologie. Là on a reçu un communiqué d'Ankama qui disait qu'il partait aussi là-bas, et on a des éditeurs un peu plus petits hein, comme Sandave, Aquileos, même Panini Comics en fait est chez comixologie. Et c'est une grosse offensive sur le marché européen, avec en tête la France, parce que voilà, ils sont arrivés il y a quelques mois et ils arrivent très très fort quand même hein. Ils ont une grosse politique offensive.
Mais là, ce qu'il y a vis-à-vis de... Enfin, déjà, ils avaient aussi annoncé une application Lanfeust, hein, sur le coup. Mais c'est des accords d'exclusivité qu'ils ont fait avec ces éditeurs-là ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être chez deux distributeurs en numérique ?
Alors, apparemment, on ne peut pas être avec deux éditeurs en numérique, en effet, hein, parce que c'est vrai que quand on voit Glénat, par exemple, ils sont partis de chez Isneo pour pouvoir aller chez Comixologie. Aujourd'hui, enfin, hein, vraiment, on est en train de voir quelque chose de l'ordre. D'un côté, on a Isneo, hein, donc avec Média Participation, donc c'est Dargo, Dupuis, Casterman, enfin, voilà, c'est des grandes maisons d'édition aussi. C'est, alors, d'après ce que dit Comixologie, hein, c'est à peu près 60% du marché, et maintenant, Comixologie, c'est 40% du marché français. D'un coup qu'ils ont réussi à récupérer. Ah ouais, en à peine 6 mois. Ouais,
moi, j'imagine que ça fait un moment qu'ils bossent dessus, mais depuis leur annonce de leur arrivée, c'est 6 mois. Quoi.
C'est exactement ça. C'est quand même, c'est un truc à noter. Ils sont de plus en plus visibles. Là, ils ont sorti, c'était la semaine dernière, leurs applications en français, hein, applications donc Android, iPhone, machin, enfin voilà, tous les bidules qu'on peut transporter un peu partout. Donc là, c'est même sorti en français. Donc là, aujourd'hui, voilà, sur sa tablette, on peut aller sur Comixologie, surfer en français et récupérer pas mal de bandes dessinées françaises. Et le catalogue grossit vraiment de jour en jour, quoi. Moi, je suis vraiment impressionné sur cette offensive, parce qu'on a eu tout un temps en fait où ça bougeait quasiment pas. On voyait Isneo qui faisait son catalogue, qui grossissait, voilà, qui a par contre, lui, de son côté, vachement travaillé ses offres d'abonnement, qui sont toujours intéressantes. Hein, vraiment, l'abonnement Isneo, c'est quand même, c'est un truc, voilà, si vous voulez aller voir, c'est plutôt intéressant. Et là, bon, en 6 mois, ils arrivent sur le marché et ils récupèrent 40% des BD possibles. Alors, reste à savoir, du coup, si le modèle commercial va aussi changer, quoi. Parce que pour le moment, je trouve personnellement que c'est quand même encore un peu cher.
Je trouve aussi que c'est un peu cher, bah, surtout qu'on est habitué, eux ils ont leur modèle américain au niveau des tarifaires, nous on est habitué à un modèle à la française, on a des recueils de plusieurs trucs américains qu'on paye donc pas cher du tout.
C'est ça.
Parce que quand tu payes, je sais pas, je crois que le prix papier hein, c'est entre 3 et 4 dollars les 22 planches.
Bah c'est ça, ouais, c'est 3,90 sur les, voilà, sur les dernières nouveautés, des trucs comme ça.
Nous, quand on s'achète un album en kiosque, on paye entre, je crois, entre 4 et 6 euros pour avoir 4 fois, voire 6 fois plus de contenu, quoi.
Bon, après ils ont quand même certains enfin ce qu'ils appellent les digital first, ceux-là c'est à 99 cents, quoi.
D'accord.
Enfin, il y a quand même plusieurs niveaux en fait. C'est-à-dire qu'on a les gros volumes qu'on peut trouver à autour de 15 dollars. Là, je vois, Saga volume 2, par exemple, bon, 150 pages, c'est 15 dollars, quoi. Mais finalement, on n'est pas très loin du prix, en effet, du prix en kiosque, quoi.
Mais là, on est carrément au prix en librairie.
Et si, 15, ouais, enfin là en librairie pour Saga, ouais, c'est ça.
Oui, le trade, enfin ça c'est entre 13 et 15 euros, quoi. C'est ça. Allez, 16, ils montent parfois sur les gros trucs. Hein. Voilà, donc.
Et si je prends un Superman, là c'est 22 pages pour 99 centimes, quoi.
Alors, à moins qu'ils nous lancent quelque chose de phénoménal, c'est qu'ils fassent une vraie traduction du prix du dollar en euros.
Ah bah, là, après, c'est.
Là, ça peut devenir intéressant.
Là, c'est à voir. Bon, alors pour le moment, hein, c'est pas sur le site. Voilà, sur le site.
Ouais, leur site n'est pas encore en français d'ailleurs.
Non, alors, leur site n'est pas encore en français. C'est les applications qui sont dispo en français. J'imagine que ça va arriver aussi assez rapidement parce que, enfin, comme je disais, ils sont super super offensifs. Et reste à voir si du coup derrière, en effet, il y aura une offre spéciale pour tout pour tous ces comics et du coup toutes ces bonnes BD là. Voilà, parce que apparemment la France étant une de leurs cibles prioritaires, il y a des chances qu'ils s'adaptent aussi au niveau tarifaire, quoi. Maintenant,
je viens de voir qu'ils faisaient un podcast chez Comixology. Ils devraient nous appeler pour la version française.
mais en plus, enfin, c'est vrai que pour le coup, moi, je suis vraiment épaté par ce qu'ils sont en train de faire, et c'est quand même à suivre de très très près. Parce qu'il y a peut-être des très belles choses qui vont arriver de ce côté-là. On se demandait quel serait un petit peu, je dirais, le coup de pied, quoi, qu'allait un peu bouger ce marché-là. Et ça pourrait bien être comme l'arrivée de Comixology. Parce que du coup, Isneo aussi derrière, là, il va falloir qu'il bouge et qu'il s'adapte, quoi, parce qu'ils se sont déjà fait voler du coup des éditeurs. Il va falloir qu'ils se bougent, quoi.
Oui, enfin, mais là, on est en train de parler de termes de catalogue. Effectivement, ils sont en train de se faire un chouette catalogue. Sauf que au niveau dev, le point fort de Comixology, c'est leur système de lecture guidée.
C'est ça.
Ouais. Mais qui demande vachement de développement en termes pour que la mise en ligne, avant de faire une mise en ligne, quoi. Mm-hmm. C'est pas mal de boulot. Donc ça, c'est un coût aussi. En plus, bon, moi, j'aime pas trop leur lecture guidée, même si elle est pas obligatoire. Ensuite, après, au niveau des, puis au niveau de la logique, Comixology sont basés à la base sur de la vente de comics, c'est-à-dire du titre mensuel. Comment est-ce qu'ils vont s'adapter à un marché où tu as des titres annuels?
Ça, et puis un marché qui est aujourd'hui aussi beaucoup un marché de catalogues déjà existants, quoi, parce que on a quand même pas mal ça. On sait que c'est vrai que c'est pas du tout le même rapport. Ça va être en effet un truc à suivre et à voir. Mais la différence, c'est aussi que eux, du coup, comme ils ont le flux mensuel d'un côté qui leur permet d'avoir quand même des ventes régulières, quoi, hein, par rapport à Isneo, ça peut aussi être un plus, quoi. Quant à la lecture guidée, c'est vrai que sur de la BD franco-belge, je suis pas sûr que ce soit tout le temps super super pertinent. Enfin, je pense que ça reste à voir. Je suis assez comme toi en fait, hein, je suis assez réticent de ce côté-là, je sais pas trop, mais bah, en tout cas, on peut quand même se réjouir que ça bouge de ce côté-là, même si à la fin, bon, ça reste quand même beaucoup que du scan de BD, quoi. On reste là-dedans, mais on a quand même une offre légale qui est en train de se structurer pas mal, quoi.
Ok, on pourra peut-être enfin trouver du fond légalement en numérique.
Ça commence à arriver, hein, finalement. Hein,
et puis la concurrence a peut-être créé... Tu sais pas s'ils ont prévu de faire... Parce que je sais que Marvel avait fait un système d'abonnement à tout.
C'est ça, oui. Ouais,
un peu à ce que fait Spotify pour la musique, ou Deezer, hein, c'est pareil.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu penses que ce genre d'offre-là, et ce que fait aussi Isneo d'ailleurs, quelque part, mais c'est limité en nombre de titres, mais c'est un peu le même principe. Est-ce que tu crois qu'on peut s'attendre à ce genre d'offre pour de la BD?
C'est une bonne question. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est difficile de dire ce que va faire Comixology, parce que c'est vrai que de leur côté, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont vus comme le iTunes de la BD. Donc là, on est vraiment sur de l'achat au titre, on est vraiment sur quelque chose de très carré. Mais de ce côté-là, c'est pas sûr que l'achat au titre soit aussi intéressant, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont s'adapter et nous faire une offre abonnement? Ben, moi, j'aimerais bien, parce que globalement, c'est ce qui est intéressant chez Isneo, quoi, leur offre d'abonnement. Même si je suis pas fan de leur liseuse, c'est vrai que c'est quand même un tarif plutôt intéressant, quoi.
Oui, un accès. Je crois que c'est 15€ et tu peux lire une quinzaine de BD dans le mois, un truc dans le genre.
C'est 10 BD par mois pour 15€. Donc c'est pas cher, quoi.
Dans une optique de lecture et pas de collection, c'est vachement intéressant, quoi.
C'est super intéressant, sachant que il y a quand même déjà, ils ont quand même pas mal augmenté leur catalogue aussi, Isneo. Hein. On est autour de 4000 titres disponibles, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça commence à être pas mal, quoi.
Ok, bon, maintenant ce qu'il faut espérer, c'est que Comixology ne fasse pas ce qu'ils avaient fait sur Saga, tiens, vu qu'on en parlait il y a quelques secondes, dire de la pré-censure en se disant oulala, Apple va pas aimer, on va censurer nous.
Ouais, mais globalement, Isneo avait fait pareil, hein, donc bon.
Isneo, on les avait appelés pour leur dire, vous pourriez censurer, sinon on vous jette, mais on doit censurer quoi? Mais ils savaient pas quoi, donc ils ont fait large.
Ils ont fait super large et ils ont remis après. C'est vrai. Mais enfin, globalement, c'était un peu la même chose. Après, ça, c'est des trucs où ils ont pas le. En fait, comme ils sont eux de leur côté pieds et poings liés par certains distributeurs, enfin, outils en fait sur lesquels ils distribuent, c'est un peu compliqué pour eux de savoir ce qu'ils peuvent vendre ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent pas vendre, quoi. Mais là c'est un autre débat et qui en effet bloque aussi la progression de la BD en ligne, quoi, mine de rien.
N'empêche, je suis surpris par le point qui fait que ce soit des contrats d'exclusivité avec les éditeurs, parce qu'il me semble que pour les éditeurs américains, ce n'est pas le cas. Et que tu peux trouver, par exemple, les BD des éditeurs américains chez Comixology, mais aussi ailleurs. Par exemple, on peut les trouver sur l'iTunes Store.
Ouais.
Tu peux trouver des BD Marvel, il me semble. Hein. J'ai peur de dire des conneries, mais enfin, on peut trouver.
J'avoue que je suis pas assez au taquet là-dessus.
Enfin, on peut trouver des BD qui sont sur Comixology, sur iTunes Store, sans passer par Comixology, tu vois. On peut trouver, ne serait-ce que sur les boutiques
des éditeurs eux-mêmes. BD, Marvel a même tapé très fort, hein, en mettant en ligne des tonnes et des tonnes de BD sur son site web et en mettant gratuitement certaines à disposition, ce qui avait fait planter leur serveur d'un coup.
Les serveurs Comixology, c'est Comixology qui gère, il me semble, les services Marvel.
Ouais, mais après, ils ont peut-être ce genre de truc derrière, parce que Comixology, ils sont quasiment tout seuls de l'autre côté de l'Atlantique aussi, quoi, en termes de technique, quoi.
Quoi qu'il en soit, c'est un point intéressant. On va aussi souligner le fait que Comixology s'ouvre à l'auto-édition, donc on va peut-être pouvoir avoir des trucs sympas là-dessus. Ça crée une petite guerre entre Isneo et Comixology. J'espère qu'Isneo aura les reins solides pour maintenir la concurrence, parce que c'est une concurrence qui est bonne, je pense.
Saine. C'est ça. Et puis là, je dirais que ça y est, hein, quasiment, ils se sont déjà partagé le marché en termes d'éditeurs. Maintenant, il ne reste plus qu'à séduire les consommateurs derrière, quoi.
Eh bien, nous verrons plus tard ce que nous annonce le futur concernant la bande dessinée scannée sur nos tablettes. Merci, voilà. Merton.
Voilà, et on en reparlera très vite, je pense.
On en reparlera très vite. Ouais, ouais, tu m'as annoncé un truc que tu voulais faire. J'en dis pas plus. Je tease, tu vois, pour que les gens aient envie d'en savoir plus. Ça a l'air très intéressant ce que tu nous prépares. Voilà. Merci. On se retrouve la prochaine fois. Peut-être le mois prochain. On va voir. On va peut-être prendre des vacances cet été.
Ça dépendra des vacances.
Voilà. Allez, ciao, Merton. Bye. Ciao.
Jason Little, nous avions déjà parlé de Jason Little en parlant de sa BD Bee. Je sais pas si tu te souviens, Thio, je sais pas si tu étais déjà là, Tizak. Jason Little fait un strip à l'heure actuelle qui s'appelle Borb. Borb, c'est l'histoire d'un clodo, et on suit sa vie quotidienne en strip de clodo. C'est des séries de 6 strips en général qui vont nous raconter à chaque fois une petite aventure de ce clodo. C'est très particulier, donc on est dans un noir et blanc, un dessin assez crade, parce qu'on parle d'un clodo, quoi, donc forcément c'est une image un peu sale. Et autant ça commence, c'est assez rigolo, très très vite, Jason Little commence à nous montrer le côté sordide et glauque. On est dans du strip pas drôle. C'est par exemple, un des derniers épisodes qui a commencé à publier racontait la descente. Comment est-ce qu'il est devenu clodo ? Donc la drogue, le fait qu'il ait perdu ses dents à cause de la drogue, qu'il ait commencé à avoir des problèmes. Dans le tout dernier, là par exemple, on voit les problèmes qu'il a eu derrière. On a dû l'amputer d'un pied à cause du froid, etc., etc. Donc le truc vraiment qui devient presque social. Alors qu'au début, il nous attire vers cette histoire de clodo avec de l'humour, au bout d'un moment, il nous montre que la misère, l'horreur qu'il y a autour de ce personnage. Donc c'est Borb de Jason Little, et c'est très très sympathique. Thio, tu vas nous parler de Arrow.
De Oliver Queen.
Oliver Queen, ah, la bande dessinée Green Arrow de chez DC Comics.
Non, et non.
Oliver.
La série.
Télé,
exactement. Ouais. Avec Oliver Queen qui a donc passé une année complète. Non, 5 ans, je crois. Plusieurs années, en fait, sur une île où il a appris à survivre. Et où il est devenu le Green Arrow.
Le Green Arrow, c'est bien, le gars il est sur son île déserte et je suis le Green Arrow, il s'emmerde tout seul, alors il dit ça.
Non, alors en fait il y a toute une histoire de.
Il y a un mec qui s'emmerdait sur un bateau qui a dit je suis le maître du monde aussi. Hein.
C'est vrai.
Il est mort, c'est le roi du monde.
Mais il est mort. Donc Oliver Queen en fait, c'est le.
La chute était belle.
C'est le fils d'un multimilliardaire de la ville de.
Ouh oui
Emerald City.
Machin City.
Ouais.
Ouais, ça va m'en revenir, je vais revenir.
Je l'ai plus. Et donc du coup il meurt, enfin il est porté disparu avec son père, je pense pas que tu l'aies là-dedans. Il disparaît avec son père donc dans le
ville,
l'échouage de leur bateau.
Ah l'échouage, ouais d'accord.
L'échouage.
L'échouage, j'ai pas l'autre mot qui est venu.
Naufrage.
Merci.
Ouais c'est bien,
naufrage. En deux.
Alors, c'est chaud.
Dans le naufrage de leur bateau, Oliver, du coup, va devenir, pour survivre, va devoir s'endurcir et va devenir le Green Arrow. Il va ensuite réussir à revenir dans sa ville de Starlight. Star
City. Ouais, c'est Star quelque chose, ouais.
Star City.
C'est la même ville que Flash, je crois.
C'est peut-être comme ça, ouais. Mm. Et là, il va essayer maintenant de jouer un petit peu les justiciers en faisant payer toutes les personnes qui ont fait du mal à sa ville. Car il a eu, par son père, un petit carnet qui contient toute une liste de noms. Alors, dans le pilote, il y avait environ 5 noms seulement qui étaient visibles.
Il y en a 5 sur plein de pages.
Mais en fait, là, on s'est aperçu qu'il y a environ au moins 150 pages en carnet.
Parce qu'il s'était emmerdé au bout de 5 épisodes, il savait plus quoi raconter. Ça.
Et du coup, on s'est aperçu
qu'il tue trop vite.
Qu'il y a beaucoup de noms. Et voilà. Donc, c'est l'histoire du Green Arrow, qui est un petit peu différente quand même du Green Arrow...
De la BD,
du comics, voilà, où on a ici un personnage qui, différent, mais sans trop l'être, je dirais, parce qu'il est quand même aussi, il n'a pas de pouvoir magique, voilà, oui. et puis il se fait aussi casser la bouche, quoi.
Il est gauchiste comme dans la BD.
Non, il est moins gauchiste quand même dans la BD, parce que bon, ça reste quand même le fils à papa, quoi.
Ouais, parce que dans la BD, il est gauchiste, il est fils à papa, mais il bisque un peu d'être fils à papa, ça le gonfle. Hein.
Non, là, clairement, il revient en ville. Son idée pour se remettre en selle, c'est de monter une boîte de nuit avec son ami d'enfance, qui sert de plus ou moins de couverture au niveau des immeubles pour se faire une batcave, une arrocave. Très bien planqué d'ailleurs.
Très très bien planqué derrière une porte.
ah non, c'est juste énorme. Celle-là, franchement, voilà. C'est juste énorme.
Le truc, qui m'a un petit peu choqué dans la série, entre guillemets, choqué, peut-être un bien grand mot, mais c'est le secret du personnage est très vite éventé, car très rapidement, au bout de 10 épisodes de la saison 1, il y a au moins presque 4 ou 5 personnes qui savent qui il est.
Alors il a un sidekick, puis un deuxième sidekick, puis son ami d'enfance, puis...
Est-ce qu'il a le même déguisement ou juste il se met un truc noir sur les yeux
Il a un truc, non, il a un petit... Il met du noir autour des yeux et il met une capuche.
Ah quand même, il met une capuche.
Mais une capuche qui en jette.
Ouais, une capuche qui fait un jet d'ombre, en fait.
Ah, c'est la capuche des PNJ dans les tavernes,
tu vois jamais leur visage. Tu vois jamais leur visage avec une capuche. Mais toi, tu mets une capuche, on te voit quand même. Toi, t'es dans ta voiture planquée derrière des vitres, les flics, ils arrivent à te flasher.
Mais mis à part ça, c'est une série, je trouve, qui est pas mal intéressante. Alors déjà, pour les personnes, pour le public féminin, il va y avoir un intérêt déjà purement esthétique et corporel. Le personnage principal est bien bodybuildé et ils ont décidé de souvent, c'est-à-dire quasiment à chaque épisode, de le montrer torse poil avec toutes ses petites tablettes de chocolat.
En train de faire des tractions.
Oui, toujours.
Tant qu'à faire.
Et ouais, non, il le fait bien.
Il le fait très bien.
D'accord.
Après, au niveau de l'histoire, ça monte, je trouve, graduellement en puissance tout au long de la saison 1, qui est finie, mais je crois que non, pour la saison 2, on l'a pas encore. Elle n'est pas encore diffusée, ça je voulais dire. Ça monte au fur et à mesure parce qu'on va avoir d'une part tout ce qui se passe donc dans sa ville actuellement, où il est le Green Arrow et où il va donc devoir gérer différents événements avec des ennemis dont à un moment donné on ne sait plus très bien qui est finalement le vrai vilain de l'histoire, parce que voilà, il y a toujours un boss au-dessus du boss. Sa vie privée qui est un petit peu compliquée parce que il est le Green Arrow d'un côté, mais il sait des choses sur sa famille que le Green Arrow sait, enfin qu'il a découvert grâce au Green Arrow mais qu'il n'aurait jamais su avant. Et en même temps, on a des flashbacks où on retourne sur l'île sur laquelle il a vécu pendant 5 ans, ça y est, je l'ai ouvert. Pendant 5 ans et là où il s'est transformé en Green Arrow, et on a justement toute cette transformation qui est expliquée
Au fil des épisodes,
très lentement, voilà, on a des petites informations qui sont distillées, c'est sympathique.
Alors, j'ai pas vu, mais on avait parlé comme d'un Smallville réécrit par Christopher Nolan à la Dark Knight.
Ouais, moi je mettrais un petit mélange entre Daredevil et Spider-Man. Spider-Man pour l'aspect conflit intérieur et conflit avec sa vie personnelle, où il a des doutes, où ça implique sa famille, où ça met sa famille en danger, où il a une petite amie mais c'est un amour impossible, voilà. Et le Daredevil pour l'ambiance, parce qu'effectivement on est quand même dans quelque chose de très sombre, ça se passe souvent la nuit. Il a un don particulier qui n'est pas un don surnaturel mais qui est un entraînement particulier. Il se fait casser la bouche régulièrement, mais il en donne en retour aussi. Enfin, il a un côté très humain, de mec qui s'est endurci et pas un mec qui sort tout droit comme ça avec une astéroïde ou un rayon machin qui l'a transformé en super-héros.
Oui, donc la série essaye de rester crédible, quoi.
Complètement.
Sur certains points, sauf la porte de la Batcave.
C'est ça.
Non, sauf quand en fait il arrive en faisant une petite pirouette à éviter les balles. Là, par contre, c'est pas très crédible.
D'accord.
Quand ils sont 15 à tirer avec un pistolet mitrailleur, il y a quand même au moins une balle qui devrait le toucher.
Ouais,
mais ça mettrait fin à la série.
C'est ça.
Ce serait dommage.
Donc en fait, voilà. Donc globalement, il y a. Il y a trois thématiques qui tournent. Un fil rouge autour des personnages qui sont dans le carnet. Les épisodes one-shot avec des super-vilains qu'ils croisent à droite à gauche, qui parfois refont surface d'une façon ou d'une autre un petit peu plus tard.
Des super-vilains en costume et tout, comme...
Alors, pas exactement.
Mais certains commencent à avoir des costumes.
Et quand il y a des costumes, alors il y en a une principalement qui revient en costume, c'est sur le principe de protection d'identité, donc rien de bien novateur là-dedans. Le coup de l'épouvantail, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle exactement, mais on est sur une redite de l'épouvantail de Batman.
C'est le même univers. Hein.
C'est le même univers.
Donc c'est le même personnage qui t'a inspiré.
C'est ça. Et je le trouve, mais alors lui, absolument génial. Et l'acteur dont j'ai oublié le nom et qui joue le rôle de l'épouvantail, c'est pas du tout un inconnu.
C'est pas Cillian Murphy, non. C'est lui qui jouait l'épouvantail dans...
Oui, mais je sais plus à quoi il ressemble. Bref, il est excellentissime et c'est du très très bon. Toute cette partie-là, c'est vraiment du très très bon. Et donc, la troisième thématique, c'est ce que disait Mathieu, à savoir les flashbacks sur l'île, pour remonter aux origines du ce qui s'est passé sur l'île, comment est-ce qu'il s'est transformé, quelles sont les relations, les personnages qu'il a rencontrés sur l'île et qui l'ont permis de se transformer.
Elle n'était pas si déserte que ça, son île.
Elle n'était pas du tout si déserte que ça, son île. Et, et c'est pas Lost, mais quand même, il n'y a pas d'ours polaire. Mais...
Pourquoi il y a des ours polaires? Non, il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'ours polaire.
Il n'y a pas d'ours polaire. Du coup, c'est vrai que les passages sur l'île montrent aussi les contradictions que tu retrouves dans la vraie vie actuellement. Parce que il y a des, justement, avec son sidekick, il a une sorte de Jiminy Cricket, en fait, son sidekick, et il lui dit, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu fais ça, finalement? Alors, je dis, ah, parce que j'ai un bouquin. Ouais, mais ce bouquin, c'est sûr que les gens ils sont coupables.
D'accord. Ah oui.
Parce que oui, mais c'est mon père qui me l'a dit. Mais tu m'as pas dit qu'il était mort, ton père? C'est lui qui t'a donné le bouquin? Oui. Et t'as dit qu'ils étaient méchants?
Ouais,
pas exactement.
Voilà. Donc il y a des choses aussi qui nous sont accessibles petit à petit parce que les choses que l'on sait, c'est en partie aussi ce qu'il raconte à son sidekick. Et parfois, il y a des petits couacs, des petits trucs où il a un peu menti et où on revient un petit peu dessus par la suite.
Oui, donc la série arrive à garder son intérêt. Pas trop d'épisodes one shot bouche trou.
Non, pas trop.
Non, quasiment pas pour l'instant.
D'accord. Donc Green Arrow, une série.
Arrow.
Oui. Arrow.
Arrow, qu'on peut trouver partout où elle est diffusée.
Alors bien évidemment, pour l'instant il n'y a pas de VF, donc ce n'est que de la VO ou de la
VO avec choper des sous-titres sur Internet.
Voilà. Donc continuez à télécharger illégalement, parce que de toute façon la télé française on n'a rien à faire de certaines séries et sans doute ne les diffusera jamais. Donc faites-vous plaisir.
Oh, pas bien.
Nous allons finir avec cet épisode 81
de 81 minutes.
Ouais, au moins. Bien, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous rappeler les joies de nos différents réseaux sociaux. Comme j'adore la tête que font mes comparses à chaque
Facebook,
fois que je parle de
Twitter,
ça.
Facebook, Twitter, Ubuntu, Linux, YouTube.
Ah non, YouTube. YouTube, c'est pas mal.
Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires,
ouais, plein de commentaires
sur
partout.
Les différents réseaux.
Ouais, parce que sinon ils me virent, hein, je suis au chômage. Moi.
Sur ma boîte mail,
s'il vous plaît, laissez des commentaires.
De OneIPA,
s'il vous plaît. Monsieur Dame, s'il vous plaît, laissez des commentaires.
Allez, au revoir à tous, merci.
Ciao.
Au revoir, mais laissez des commentaires.
Ah oui, aussi sur les commentaires sur la Voix des Bulles et aussi sur le Facebook de la Voix des Bulles. Et sinon, le OneIPA Club du Facebook.
Mais laissez des commentaires.
Et là, ils montrent le show, ils ne vont pas comme j'en somme.
Ça va être des stars, je crois. Écoute, si un jour on devait avoir une carrière, Pierrick, je crois qu'on est mort. Hein.